Je serais d'ailleurs bien incapable, n'est-ce pas, reprendre en quelques mots la démarche savante et subtile de Daniel Ehlers-Roazen dans les deux précédentes conférences qui nous ont entraînés de la forge de Pythagore, n'est-ce pas, et du bruit de ses marteaux à celui de Laoramara qui fait Broels Brancuts Klarzir. Et aujourd'hui, après la dernière fois de l'arithmétique à la rythmique, et nous avons tellement appris sur l'arithmétique, je n'en suis encore pas revenu, nous abordons des thèmes, ce qui nous paraît à nous des eaux plus calmes, mais avec le maître, on se méfie, hein, musique naturelle et langue vulgaire, nous disons, bon, là, nous sommes en terrain connu, mais nous allons voir que nous ne le sommes pas du tout. Donc, en route vers l'inconnu.
Merci beaucoup. Effectivement, aujourd'hui, je parlerai du vers en poursuivant et dans un certain sens en terminant les analyses que j'ai entamées la semaine dernière. Et la semaine prochaine, je reviendrai à la question du son et du son nombré. Dans le livre premier de son banquet, Dante affirme que les poésies les plus belles se tiennent ensemble par un être harmonique, qu'il appelle le lien musical. On apprend qu'un seul fait atteste l'existence de ce lien. C'est l'impossibilité réelle qu'il y a à transférer un poème d'une langue vers une autre, sans détruire par là même toute la douceur, la musique et l'harmonie qui étaient les siennes. Que chacun sache, peut-on lire, que rien de ce qui est harmonisé par le lien musical ne peut se muer de son parler dans un autre, sans rompre toute sa douceur et harmonie. Et c'est la raison pour laquelle Homère ne se mua pas du grec en latin, comme les autres écritures que nous avons des Grecs. Et c'est la raison pour laquelle les vers du psautier sont sans douceur, musique et harmonie. C'est qu'ils furent transmués de l'hébreu en grec et du grec en latin. Et dans la première transmutation, toute cette douceur s'est perdue. Sappia ciascuno che nulla cosa per legame mosaico armonizzato si può della sua loquela in altra trasmutare senza rompere tutta la sua dolcezza e armonia. E questa è la cagione perché Omero non si mutò di greco in latino come le altre scritture che avevamo da loro. E questa è la cagione per chi i versi del Salterio sono senza dolcezza di musica e d'armonia. Che essi furono trasmutati d'ebreo in greco e di greco in latino, e nella prima trasmutazione tutta quella dolcezza venne meno. La philologie dantesque a su repérer dans ces lignes une allusion au passage de la Préfatio du deuxième livre des Chroniques de Sèbe, où saint Jérôme évoque ce qu'il y a d'incommensurable entre les langues. Comme Dante, le traducteur patristique avait cerné, en effet, cet impossible linguistique. Ni les rythmes d'Homère, ni ceux du psautier ne s'entendent entièrement en latin. Mais Dante fait un pas de plus, car il explique ce fait par rapport à l'existence d'une chose que Jérôme, quant à lui, ne mentionne nulle part, c'est-à-dire le legame musaico, lien musical par quoi s'harmonisent, selon le poète médiéval, les compositions en vers. L'identité de ce lien singulier s'est montrée rétive à l'analyse critique. L'attribut mosaico a posé problème, et ce à partir de sa simple forme lexicale. On le retrouve dans un seul autre passage de l'œuvre de Dante. Au livre 4 du banquet, nous rencontrons ces poètes qui ont lié leurs paroles par l'art musical. I poeti che con l'arte mosaico le parole hanno legato. Cette phrase fait écho à celle du livre 1. Une fois encore, le mot musical est l'attribut du lien qui unit l'œuvre en vers. Mais de quel lien au juste s'agit-il? Une première explication a été proposée en 1934 par Giovanni Busnelli et Giuseppe Vandelli. Dans leur édition du banquet, ces auteurs commentent en note que de même que la musa, c'est la poésie, de même le mot mosaico signifie ici poétique. Dans sa traduction française de ce traité, André Pézard a tranché en faveur de cette lecture. Elle a été reprise dans le glossaire imprimé par Luigi Blasucci dans son édition des œuvres de Dante en 1965. Ce lien fragile auquel se voit attribuer toute l'harmonie du poème et qui ne survit guère à la traduction, ce serait donc un être poétique, don suprême de la muse de la parole. Pourtant, une seconde lecture du vocable musaico a aussi été proposée. On a ainsi avancé la thèse selon laquelle ce mot dériverait en fait du nom commun musica. Grâce à une brève et perspicace contribution au lexique dantesque publié en 1969, Vincenzo Mengaldo s'est fait le représentant le plus illustre de cette position. En s'appuyant sur ce monument lexicographique qu'est le dictionnaire de Niccolò Tommaseo et Bernardo Bellini, Vincenzo Mengaldo note que l'on rencontre l'une des premières attestations de l'adjectif musaico dans l'édition vulgaire de l'Historia Destructionis Troiae de Guido delle Colonne. Et ici, les suoni musaici, ce sont des musicos sonos latins. Il est vrai que l'on ne trouve nulle part dans le vocabulaire médio-latin le pendant exact à l'expression de Dante. Il n'existe aucune mention de musaicus au sens de musical dans le Novum Glossarium Media Latinitatis, dirigé par Franz Platt. Il fallait donc démontrer la thèse à l'aide de la lecture du contexte dantesque. Comme l'observe Mengaldo, Dante fait mention de ces vers du psautier qui, en traduction grecque et puis latine, sont sans douceur, musique et harmonie. Selon le critique, cela doit impliquer en toute rigueur que l'ancien lien qui s'était rompu était en vérité de nature musicale. Par ailleurs, dans une célèbre formule du De Vulgari Eloquentia, Dante ne définit-il pas la poésie comme rien d'autre qu'une fiction composée, rhétorique et musicale, nihil aliud quam fictio rhetorica musicae poeta. Mengaldo tenait que si Dante avait jugé bon d'ajouter à la propriété rhétorique de la fiction poétique une qualité proprement musicale, c'était sans doute à cause d'un élément de nature non linguistique qui conférait au vers son harmonie. La suggestion, en effet, est digne de considération, mais elle n'épuise pas la question. Une chose du moins est sûre, qu'il relève de la muse ou de la musique, ce lien qui témoigne de l'intraduisible en poésie ne se laisse guère, pour sa part, traduire facilement, car son nom est à l'image de ce qu'il signifie. Il ne se présente dans le passage d'une langue à l'autre que dans la dispersion de son sens. Qu'il y ait dans les paroles du poème une musique au sens propre, c'est la principale thèse qu'avança Eustache Deschamps, moins d'un siècle après Dante. Dans l'art de Didier, daté de 1392, on retrouve en effet une présentation des arts libéraux qui se conclut sur le portrait de la musique, la dernière science ainsi comme la médecine des sept arts. En soi, ce choix est certes digne d'attention, mais il est moins frappant que le champ d'application que l'auteur attribue à la musique. Car dans ce traité en français, on découvre au sein du chapitre qui traite de l'art des sons qu'il en va en fait de la matière première de la langue vulgaire. D'abord, il est question de ces éléments infimes de la grammaire que sont les lettres, qu'elles soient voyous, demi-voyous, liquides, sonnantes ou muettes. Bientôt, nous rejoignons les formes bien attestées des paroles versifiées, ballades, sirventue, virelais, rondo, pastourelle et lait. L'art poétique se pose par là comme musique, dans ses parties et dans ses formes. Cependant, l'innovation la plus remarquable de ce traité tient à un autre point. Il concerne la définition même de la poésie comme variété de la musique. Eustache affirme, est à savoir que nous avons deux musiques dont l'une est artificielle et l'autre est naturelle. Deschamps juge que l'art instrumental issu de la tradition classique est artificiel. Selon ce disciple de Guillaume de Machaut, seule la musique du vers est naturelle. Pour autant, il serait erroné d'en déduire que la poésie s'inscrit pour Deschamps dans le domaine de sciences musicales au sens classique du terme. Bien au contraire, si le savoir du vers se voit englobé dans la doctrine des sons nombrés, c'est pour mieux subordonner la musique à la poésie, puisque la musique de la simple parole est première, et puisqu'elle seule exige de celui qui la pratique des dons naturels. La distinction traditionnelle entre musica naturalis et artificialis se voit alors écrite. Celle-ci puise ses origines dans une invention terminologique de Jean Scott Erigène. Dans son commentaire sur Marcianus Capella, en effet, Jean fut le premier à invoquer une musica artificialis, imitation instrumentale de cet ordre supérieur selon lequel la nature est disposée dans son ensemble à travers les lois d'une harmonie divine. La notion de musica naturalis, quant à elle, provenait des commentaires d'Erigène au pseudo-Denis l'Aréopagite et des nombreux chapitres physiques et cosmologiques de son De Divisione Naturae. On y apprend que le principe de la musique naturelle est celui des tons, ou modes, qui sont chantés de toute éternité dans les cieux à la gloire de Dieu. Dans une étude mémorable, Calvin Bauer a reconstitué les multiples voies qui menèrent de ce premier usage aux conceptions plus tardives de Rémy d'Auxerre et de Réginon de Prüm, selon qui il existait une continuité, presque une identité, entre la musique humaine et sensible, la musique de l'univers et la musique divine, celle des anges en présence de Dieu. Que Deschamps ait adopté l'opposition différentielle naturelle-artificielle en matière de musique, cela en soi ne surprend guère. S'il innova, ce fut en usant de cette distinction pour définir l'essence du chant poétique et en accordant aux unités du vers en langue d'ouïe le titre d'élément de musique naturelle. Car ce faisant, il attribuait à la langue vulgaire une variété d'harmonie fort originale, celle qui s'entend par le moyen de la voix seule, et qu'il qualifiait de musique de bouche en proférant paroles métrifiées. Dante, pour sa part, n'était pas allé si loin dans ses traités de poétique. Mais il avait le premier proposé une doctrine complète des langues vulgaires, qui se donnait pour tâche de considérer ce que chacune d'entre elles possédait d'harmonieux. Dans le De Vulgari Eloquentia, Dante offre ainsi une étude de la diversité des parlers. Inévitablement, cette discussion se heurte à la question des difficultés de la traduction. Dès la première page de son ouvrage, en effet, Dante insiste sur la pluralité des idiomes, phénomène que nul avant lui, si l'on en croit, n'avait considéré en tant que tel. De là son constat initial, qu'il existe en vérité deux langages, locutiones, bien distincts. Dante écrit, vous le savez mieux que moi, « Comme il faut que toute discipline ait pour tâche, non pas de définir, mais de déclarer plutôt son sujet, pour que l'on sache sur quoi elle se fonde, nous disons, pour nous confronter rapidement à la question, que nous appelons langue vulgaire ce langage auquel les enfants sont habitués par ceux qui les entourent, dès qu'ils commencent à distinguer les voix. » Ou encore, puisque cela peut se dire plus brièvement, nous affirmons que la langue vulgaire et ce langage que nous recevons en imitant sans aucune règle notre nourrice. Nous avons un langage secondaire, locutio secundaria, que les Romains ont appelé grammaire, grammatica. Les Grecs ont aussi ce langage secondaire et d'autres peuples encore, mais non pas tous. En vérité, peu parviennent à en user, car ce n'est que par des études longues et assidues que nous nous réglons et instruisons en elles. Ces formules introductives ont fait l'objet de nombreux commentaires. Notons que les différences linguistiques dont il est ici question sont de deux types, en ceci qu'elles touchent et à la substance et à la transmission de chaque idiome. Ainsi faut-il écarter de prime abord l'idée selon laquelle ces diverses locutiones seraient deux langues, distinctes au sens moderne, homologues entre elles en forme et en matière. Rappelons que de tels objets sont tous également grammaticaux, soumis à l'ensemble de ces règles que la science du langage cherche à déterminer. Mais à ce sujet, Dante ne laisse guère de doute. Seule la locutio secunda est une langue en ce sens, puisqu'elle seule possède, pour Dante, cette inaltérable identité de la parole dans les temps et dans les lieux différents, qu'il appelle grammatica. C'est en effet la définition que donne Dante de la grammatica, c'est l'inaltérable identité de la parole dans les temps et dans les lieux différents. Dans sa substance même, la langue vulgaire est d'une autre nature. dépourvu de la régularité propre à ce langage artificiel qu'est la grammaire, la prima locutio n'a de cesse de se transformer dans le temps et dans l'espace, suivant la loi qui veut que chacune de ces nombreuses variations doit aussi varier en elle-même. Et si l'on considère l'apprentissage et le transfert des locutiones, une différence ultérieure se laisse constater. Tandis que le parler grammatical ne s'acquiert que par des études longues et assidues, la langue vulgaire est celle que nous recevons en imitant sans aucune règle notre nourrice. Entre paroles savantes et paroles vulgaires, langue paternelle et langue maternelle, on ne retrouve qu'une communauté minimale, dictée par le fait brut d'un classement spécifique au sein du genre de la locutio. Toutefois, dans le De vulgari eloquentia, la distinction entre les divers parlés se complique, et ce, dès les premiers chapitres. Il devient bientôt difficile, en particulier, de s'en tenir à l'identification sommaire du langage grammatical au latin et de la langue vulgaire aux idiomes vernaculaires. Pour une part, Dante ne nie nullement que le langage des Romains se soit altéré au long des siècles, de l'époque classique à l'âge médiéval. Fait fort difficile à admettre si l'on accorde au latin le statut précis de locutio secunda. Pour une autre, Dante n'hésite pas à identifier et à classer les divers parlés de la Romagna médiévale, comme si chacun d'entre eux ne se distinguait pas de lui-même, à tout instant et en tout lieu. Comment dès lors lier locutio et langue? Et comment corréler la distinction entre parler premier et second à une réelle différence entre le vulgaire et le latin? Sans doute, il n'est pas anodin que lorsqu'il discute de ce que l'on appellerait aujourd'hui des langues, Dante fait usage d'un terme autre que locutio. Il emploie le mot idioma. Il semble en fait que l'on assiste ici à une double distinction entre les divers parlés du Moyen-Âge. Car au partage initial entre les deux espèces de langage, c'est-à-dire entre locutio prima et locutio secunda, s'ajoute une différenciation supplémentaire entre ces nombreuses langues que Dante pouvait entendre en Europe en son temps. L'un des traits remarquables de l'essai de Dante consiste en ce constat théorique, complexe, de la diversité des langues. Mais il va de soi qu'avant l'époque de son traité, la réelle variété des parlés marquait déjà fortement les littératures médiévales. Elle ne le fit nulle part aussi nettement que dans le domaine de la Romagna. Quel est cet être que l'on appelle roman, si ce n'est le latin, autre chose que le latin classique? Dès les origines, en fait, ce mot désignait, roman, moins une langue unique qu'une différence complexe, qui séparait l'ancien idiome des lettres classiques du parler nouveau. L'histoire du vocable est exemplaire à cet égard. On sait que dans ses usages premiers, romance ne signifie pas autre chose que langue vulgaire, c'est-à-dire langue néo-latine, sans spécification particulière, dans son opposition massive au latin et à toute autre langue non néo-latine. Ainsi, dans la chanson de Flovent, un personnage qui s'efforce d'identifier son interlocuteur peut bien lui dire « Vous me semblez François au parler le roman ». À partir du XIIe siècle, par glissement métonymique, romance acquiert le sens de discours oral, et plus souvent de textes écrits en langue néo-latine, surtout considérés par rapport à une source latine. De là le sens de roman comme vulgarisation. Ce n'est qu'à partir de la seconde moitié du XIIe siècle que le roman sera dit œuvre narrative, mise en vers en langue vulgaire, et destinée non au chant, mais à la simple lecture, avant d'assumer ses significations ultérieures d'œuvre narrative en prose. Dès la toute première époque de la littérature en langue romane, en effet, on assiste à un contraste littéraire, par quoi la langue vulgaire fait face à l'ancien latin. Ainsi a-t-on identifié dans l'Aube de Fleury, composition strophique datée de la seconde moitié du Xe siècle, l'une des plus anciennes apparitions d'un parler roman, disposée de manière systématique en opposition à des vers rythmiques latins. Les éditeurs modernes reconnaissent tous dans ce texte une poésie en trois strophes. Chacune se compose de trois vers latins d'un type trochaïque relativement fréquent en milieu monastique, suivi de deux vers récurrents, écrits dans une autre langue, qui font refrain. L'alba par umet mar altra sol, poi passa Bigil Miraclar Tenebras. Le sens exact de ces vers n'est certes pas limpide, et l'identité même de leur langue est encore disputée. Au fil des années, les érudits ont avancé les thèses les plus variées, qu'il s'agissait en fait ici d'une forme d'occitan déduite du latin d'origine, de rhéto-romain, de bas-latin avec des intrusions occitanes originelles, ou d'une étrange réduction du latin d'origine. Il est évident que l'interprétation de ce texte suppose l'identification de sa langue. C'est en attribuant au parler sa nature grammaticale propre que l'on peut en préciser le sens. Mais ces vers énigmatiques ont également été soumis à des interprétations plus littéraires. Ainsi, Paul Zumthor a-t-il soutenu, en s'appuyant sur une référence dans le texte latin à l'appel d'un veilleur, que le refrain évoquait la lenteur du réveil, à mi-chemin encore du rêve. Plus récemment, Michel Zinck a suggéré que l'on y retrouvait plus probablement la reconstitution confuse de Carmina Rustica, d'autant plus séduisant pour le poète qui lui était obscur. Dans les siècles qui suivirent cette mystérieuse aube, le tressage poétique du latin et du vulgaire se fit de plus en plus fréquent. Du XIe siècle à la fin du Moyen-Âge, un bilinguisme vertical se constate régulièrement en poésie. C'est-à-dire un bilinguisme, pour reprendre les termes de Paul Zumthor, qu'il avait repris à son tour, qu'il avait repris de Terracini à son tour. On parlera de bilinguisme vertical lorsqu'il s'agit de l'opposition entre une langue vulgaire et le latin. Et on distinguera ce bilinguisme vertical d'un bilinguisme horizontal par lequel on assiste à la différenciation entre des langues du même statut, c'est-à-dire entre plusieurs langues romanes, par exemple. Souvent, on retrouve des compositions d'une structure similaire à celle de l'abbé de Fleury, où le vers vulgaire occupe la position de refrain ou d'élément terminal. Mais les procédés de plurilinguisme poétique devinrent rapidement plus complexes. Ainsi, dans un cantique de ce Sponsus, que l'on appelait jadis le mystère des vierges sages et des vierges folles, et qui date probablement de la fin du XIe siècle, on retrouve des strophes de quatre vers, dont le quatrième, en latin, reste identique, mais dont les trois précédents alternent d'une strophe à l'autre, latin et langue vulgaire. Je vous lis le début. Inoc anni circulo, vita datur seculo, nata nobis parvulo, de Virgine Maria. Mei amiche, mei fiel, laissa testar lo gazelle, apprendet uso neol, de Virgine Maria. Fons de se rivulo, nascitur pro populo, necto mortis vinculo, de Virgine Maria. Et ça continue. Tout au long du XIIe siècle, en effet, on rencontre des œuvres dans lesquelles des phrases en langue vulgaire, insérées en position de refrain, articulent le déroulement de textes principalement composés en latin. Dans le Carme ad Abelardo, attribué au poète anglais Hilarius, chaque strophe se compose de quatre vers en latin, suivis d'un refrain en français. Dans les Carmina Burana, des procédés similaires sont aussi très répandus. Mais au temps de l'émergence des poésies en langue romane, se développa aussi un autre ensemble de formes poétiques où des parlers vulgaires surgissaient au sein de discours composés dans une langue classique. J'entends ces formes lyriques issues de l'Espagne musulmane, dont Samuel Miklos Stern a dévoilé l'existence à la philologie romane dans un célèbre article publié en 1948. Stern établit que plus d'un siècle avant les troubadours et les trouvères, il existait une tradition de poésie lyrique dans laquelle le roman jouait un rôle non négligeable. Grâce aux recherches d'Emilio García Gómez, de Josep Solà Soler, de Federico Corriente, d'Alan Jones et d'autres encore, on connaît aujourd'hui une soixantaine de couplets en langue romane provenant d'Andalousie. Ils s'inscrivent en tous les cas au sein d'une forme poétique appelée Mouachah. C'est à un auteur égyptien du XIIe siècle, Ibn Sana al-Mulk, que l'on doit la plus ample description du procédé bilingue qu'employaient les maîtres arabes de cette forme. Dans son traité « La maison de la broderie », Ibn Sana al-Mulk précise que la chanson andalouse consiste en deux parties formellement distinctes. La première comporte six unités rimées entre elles, nommées « aqfal » ou « serrure ». La seconde, quant à elle, est faite de cinq unités qui ne partagent pas de rime commune et qui sont dites « abiyat », c'est-à-dire « maison » ou au sens métrique des vers. On dira que le poème commence par une serrure de deux vers rimés. Il se poursuit avec cinq strophes de même structure métrique dans laquelle trois vers portant une nouvelle rime sont suivis de deux vers qui reprennent pourtant la rime de la serrure initiale. À dire vrai, la forme n'est pas absolument fixe, ainsi le couplet initial peut faire défaut. Dans ce cas, la composition dite « akra », c'est-à-dire « chauve » et non pas « parfaite », n'est composée que de cinq strophes. Pourtant, le principe fondamental de versification reste inchangé. Selon une étymologie probable du terme « muashah », qui semble dériver du verbe « washah » et du substantif « wishah » « gen », le poème est tissu et brodé, de telle sorte que la fin en rappelle le début, et que le commencement à son tour en annonce déjà la fin. Dans la strophe finale du poème, on constate ce fait singulier. Bien qu'il porte la même rime que les précédents, le couplet final est écrit dans une langue vulgaire. Si le corps du texte est en arabe classique, sa serrure ultime sera donc énoncée dans une forme d'arabe parlé, ou dans ce parler que les historiens de la langue espagnole ont appelé mozarabe ou roman andalou, à condition bien sûr qu'il soit encore écrit en lettres arabes. En revanche, si la poésie est en hébreu, puisqu'il existe aussi des formes tout à fait semblables en langue hébraïque, si la poésie est en hébreu, ces vers finaux seront en arabe parlé ou en roman andalou, sans pour autant cesser d'être transcrits en caractère hébraïque. Le jeu de cette forme exige qu'à la fin, la parole soit assumée non par le poète, non plus par le poète, mais par le bien-aimé ou la bien-aimée. Dans une langue dont il n'y a précédemment aucune trace dans le corps du poème. On lit ainsi, à la fin d'une poésie d'Ibn Ruhaym, qui est un poète de la première moitié du XIIe siècle, je vous lis le petit passage en arabe et en andalou, et puis je vous donne une traduction. « Wa fatahin dhati husnin bahiyi, arabat an mantiqin ajamiyi, tughanni man'al jamali saniyi, ki fareyu, o ki serad demibi, habibi, Note tolgash demibi, c'est-à-dire une pucelle fine et gracieuse, s'exprimant dans une langue barbare, chante avec tant de beauté obscure. Que ferais-je? Qu'en sera-t-il de moi? Mon bien-aimé, ne te sépare pas de moi. Dans le temps qui lui est propre, le poème anticipe sa chute dans le silence, en ceci qu'il met en scène, à travers cette kharja, cette sortie, ce couplet final, une suite de déplacements poétiques sans précédent. Dans la chanson andalouse, le final fait basculer le registre élevé de la poésie lyrique vers le jargon populaire. La prosodie des maîtres quantitatifs de la versification arabe classique et hispano-hébraïque vers les rythmes incertains des dialectes andalous. Le sujet de l'énonciation du poète à la figure de l'aimé. Et la langue, enfin, d'un parler classique, arabe ou littéral ou hébreu biblique, vers une langue dessaisie de ses propres lettres, dans tous les sens du terme. Dans le corps du poème, une seule institution assure ce passage, c'est la rime. Car les lettres d'une seule et même écriture se prêtent alors à la notation d'une homophonie qui dépasse les frontières entre les langues, par le moyen de ce que les rhétoriciens médio-latins auraient appelé « consonance ». Les idiomes classiques coïncident ainsi avec le vulgaire. Et l'arabe et l'hébreu sonnent ensemble, ne fût-ce qu'un instant, avec la langue romane naissante. Le plurilinguisme poétique ne disparut pas avec l'efflorescence des littératures en langue d'oc et d'ouïe. Au contraire, il se raffina. Au jeu des deux langues, l'une classique et l'autre vulgaire, s'ajoutèrent des opérations plus subtiles, qui faisait usage non pas de deux, mais de plusieurs idiomes. Et au bilinguisme vertical, qui opposait le latin au roman, se substituèrent alors divers bilinguismes horizontaux plus riches. Il n'est pas de témoin plus brillant de tel procédé que celui qu'inventa le troubadour Raymond de Vaqueras dans « Eras quan ve verdejar », premier exemple de cette curieuse forme poétique en soi déformée qu'est le « descorte ». Dans les derniers vers de la première cobla de cette chanson, on apprend que le poète veut commencer un désaccord, vuel un descort commencer, en faisant désaccorder les mots, les sons, les langages. Per cui fa desaccordar los mots, els sots, els languages. On a remarqué que le lexique du texte n'est pas univoque. Quelle est au juste la nature de ce désaccord entre mots, sots, els languages? Quelques remarques s'imposent, touchant la forme de cette composition en vers. La chanson s'articule en cinq strophes ou coblas, suivies d'une tornada ou en voix. Dans les cinq premières coblas, on trouve huit heptasyllabes, marquées par le même schéma de rime, AB, 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 AB. Ouvrir un examen plus minutieux révèle une variation calculée. Le décompte des vers dans chaque strophe, à l'exception de la cinquième, manifeste une altération régulière des terminaisons entre syllabes paroxytoniques et oxytoniques. Il se trouve donc que A est oxytonique dans les strophes 1 et 4, tandis que B est oxytonique et A paroxytonique dans les strophes 2 et 3. Cela dit, le premier désaccord est ailleurs, au-delà de la rythmique du poème. Il s'agit d'un fait de languages. Les cinq coblas sont écrits dans cinq langues différentes. La coubla 1 est en ancien occitan classique, la coubla 2 en italien, la coubla 3 en ancien français, la coubla 4 en gascon et la coubla 5 en galégo-portugais. Enfin, je résume. Comme vous le savez, on a assisté à des débats souvent très, très animés au sujet de l'identité de ces langues aussi. Il est éclairant de comparer ce Descortes avec la chanson strophique andalouse. À plusieurs niveaux, le poème de Rimbaud s'oppose, en effet, à la Mouachah. Notons que dans les œuvres hispano-arabes, c'est à la fin de la composition que l'on assiste au dépassement de la frontière linguistique. Chez Rimbaud, en revanche, celle-ci se trouve franchie continuellement dans la régularité de la progression strophique. Conséquemment, dans la chanson andalouse, le mélange des langues est interne à la strophe, dans la serrure de la maison finale. Mais chez le troubadour, le plurilinguisme est extérieur à la strophe, et chaque cobla forme en soi une unité grammaticale. Enfin, dans la poésie ibérique, une langue se lie à une autre par le biais de la rime. Tandis que chez le troubadour, la distribution strophique des langues interdit la coïncidence de la rime au-delà des frontières d'une seule langue. Pourtant, une telle analyse reste inachevée tant qu'elle ne se confronte pas à l'envoi. Car dans la sixième cobla, tout bascule. De prime abord, celle-ci répète les couples de rimes des strophes précédentes, l'un après l'autre. Inévitablement, elle se compose donc non pas de huit vers, comme toutes les strophes antérieures, mais de 10. Deuxièmement, comme elle rappelle chacune des 10 rimes des 5 premières coblas, la sixième cobla consiste en 10 vers qui ne peuvent rimer entre eux. Comme le disaient les auteurs de la laisse d'Amor, elle se forme de rimes et strumps, sans répandant. Mais cette tornada se distingue avant tout par sa structure linguistique, car ces vers rappellent les 5 langues qui l'ont précédée, dans des couples de vers. Les deux premiers vers sont en ancien occitan, le troisième et le quatrième en italien, le cinquième et le sixième en ancien français, le septième et le huitième en gascon, enfin le neuvième et le dixième en galégo-portugais. Autrement dit, cette cobla ne constitue pas seulement la répétition abrogée des précédentes quant à ses rimes, sa langue aussi se remémore celle des autres coblas, au point de constituer un tout babélique. Dira-t-on de cette strophe, sans rime et sans langue unique, qu'elle est donc dissonante? Elle le serait sans doute. N'était cet élément unificateur du poème entier? Car si les diverses coblas de cette poésie s'accordent, si les cinq langues, ainsi que leurs sots et smots, forment un seul ensemble articulé, c'est en vertu de cet envoi extravagant. Au XIIIe siècle, il arriva que les deux bilinguismes se rejoignissent. Ainsi, le vertical s'imposa sur l'horizontal. Le latin se mélangea aux diverses formes romanes et la distinction formelle entre locutiones et idiomata, variété de langage et langues distinctes, finit dans l'art sonore du vers rythmé par s'effacer. Cet achèvement fut très probablement l'œuvre de ce même poète, Dante, qui, comme nul autre, réfléchissait à la diversité des idiomes. Dans une poésie fort complexe de la fin du XIIIe siècle, d'attribution disputée, on retrouve non pas du latin et des langues vulgaires, ou divers par les romans, mais du latin, du français et de l'italien, disposés selon un ordre formel que seul un disciple fidèle d'Arnaud Daniel aurait pu envisager. Je vous lis la première strophe. Aiphori, pourquoi traes savet, oculos meos, et quid tibi feci, que fatta mae così spietate fraude? Iam adivissent verba mea greci, et selon autre dame, vous savez, qu'ingannator non est degno di laude. Tu sai ben come gaude, misero meus cor qui prestolatur. Je l'espérant, et pas de moins non cure. Et Dieu, quante malure, atque fortuna ruinosa datur, a colui che, aspettando, il tempo perde, ne già mai tocca di fioretto il verde. À première vue, il semble que la structure de la tornada de Rimbaud soit ici généralisée. Car aucune des trois strophes de ce texte plurilingue n'est écrite dans une seule langue. D'un vers à l'autre, la langue s'altère, presque sans cesse. Des 13 vers que compte chaque strophe, 3 sont composés dans une première langue, 4 dans une deuxième et 5 dans une troisième langue, selon un schéma stable. Si l'on représente les langues par des nombres, chaque strophe se compose d'idiomes disposés dans la forme suivante. 1, 2, 3, 2, 1, 3, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 3. Mais un examen rapide suffit à établir que l'ordre des rimes à l'intérieur de la strophe, quant à lui, reste intact. En contrepoint parfait au descore du troubadour, chaque vers rime avec un autre vers dans la même langue et avec lui seul. Ainsi, le poème appelle la langue et la rime à une alliance inouïe. Tout vers italien rappelle et annonce un autre vers italien, tout vers français un autre vers français et tout vers latin un autre vers latin. Pourtant, il faut pousser plus avant, car une question capitale se pose. Pourquoi telle langue occupe-t-elle telle position donnée dans la strophe? Autrement dit, pourquoi la deuxième strophe commence-t-elle par le latin, tandis que la première strophe s'inaugure en français et la troisième, quant à elle, en italien? C'est en vain que l'on chercherait la raison de l'ordre des idiomes dans une strophe unique. On touche ici à la nouveauté absolue de cette composition par rapport à toute la poésie, toute la tradition de poésie en langue mixte au Moyen-Âge. De fait, le principe qui régit la distribution des langues dans le poème dépasse les frontières de la strophe unique. Il est rigoureusement métastrophique. Car dans les strophes de ce poème, aucune langue ne peut occuper la même position plus ou moins qu'une fois. Principe qui se laisse aussi énoncer positivement, dans ce poème, chaque langue occupe toutes les positions une fois seulement. Il suit de ces règles une consonance et une dissonance rythmique uniques. De strophe en strophe est requise la superposition de la structure rythmique. Réciproquement, est interdite la superposition des langues. Autrement dit, l'ordre de la succession des rimes reste le même, mais l'ordre de la succession des langues change perpétuellement. En effet, tandis que dans la première strophe, la succession des langues commence dans l'ordre français-latin-italien, soit 1, 2, 3. Dans le deuxième, elle observe l'ordre latin-italien-français, soit 2, 3, 1. Et dans la troisième, l'ordre italien-français-latin, soit 3, 1, 2. Il est aussi possible de formuler le principe de cette forme à l'aide des règles suivantes. Les vers français de la première strophe correspondent aux vers latins de la deuxième strophe et aux vers italiens de la troisième strophe. Les vers latins de la première strophe correspondent aux vers italiens de la deuxième strophe et aux vers français de la troisième strophe. Enfin, les vers italiens de la première strophe correspondent aux vers français de la deuxième strophe et aux vers latins de la troisième strophe. Une combinatoire formelle commande le mouvement par lequel chaque langue se voit transmuée en une autre. De strophe en strophe, la langue 1 passe à la position de la langue 3, la langue 2 passe à la position de la langue 1, et la langue 3 à celle de la langue 2. On l'aura deviné, la technique formelle de cette poésie repose de manière cruciale sur celle développée par Arnaud dans sa sextine. Aussi mot rime de Lo ferm voler correspondent ici 3 langages. Dans l'ordre de cette poésie, idiome et locution, parler et language, deviennent des éléments rythmiques et se soumettent ainsi à une nouvelle harmonie. Plusieurs raisons ont conduit les philologues à vouloir inscrire ce texte au nombre des œuvres du célèbre auteur florentin des Rimes et de la Comédie. Il existe un bon nombre de manuscrits qui suggèrent une telle attribution, mais la structure de ce texte est aussi en lui-même significative. Comme l'a montré Furio Brugnolo dans une étude importante, au Duecento italien, un seul poète était obsédé par le parfait mécanisme combinatoire et par la structure circulaire, fondée sur un nombre restreint d'éléments variables concaténés. Celui-là même qui fut conduit à répéter cette expérience d'Arnaud Daniel, qui était la Sextine Lo Ferm Voler, et qui voulut encore la pousser plus avant et l'amplifier dans cette œuvre, elle aussi presque unique, que l'on appelle, non sans imprécision, la double Sextine. Ce poète, c'est Dante. On pourrait ajouter qu'il ne se trouvait à cette époque qu'un seul poète pour réfléchir avec tant d'acuité à la pluralité des langues dont disposaient les écrivains médiévaux. En effet, cette poésie met en scène la double différence linguistique proposée dans le traité De Vulgari Eloquentia, qui opère une distinction entre locutiones et idiomata. À travers les strophes de cette composition trilingue, il en va ainsi de la grammatica comme des langues vulgaires. De plus, par le biais de la combinatoire rigide de cette chanson, la différence entre les deux ordres linguistiques se complique davantage. Les idiomes variables du parlare materno se plient ainsi à une régularité presque grammaticale. L'artifice de l'écriture en vers fixe les langages dans leur diversité. Alors, les langues latines, françaises et italiennes, distinctes et pourtant rassemblées, s'imposent comme les unités primaires d'une nouvelle partition rythmique. Elles se suivent et se font écho. Pourra-t-on retrouver dans cette chanson trilingue un lien musical? On serait certes en droit d'en douter. Si l'on tient que ce legame doit articuler une composition poétique dans une langue et une seule, alors on conclura qu'il fait défaut. Manifestement, l'harmonie propre à l'idiome individuel est ici rompue. Toutefois, un tel jugement serait peut-être hâtif. Car cette composition est en fait harmonisée, bien que ce ne soit pas dans les sons d'une seule et même langue. Ordonnée de manière à la fois mosaïque et musicale, la chanson comporte la plus stricte articulation linguistique et rythmique. Conséquence, elle résiste à la traduction. Et cela infiniment, et pour une seule raison. Il n'est pas de langue plus rétive à la métamorphose en une autre que celle qui, en elle-même, est déjà multiple. De là le singulier avenir qu'annonce l'envoi de cette poésie. Chanson pouvait aller pour tout le monde. Namque locutus sum in lingua trina, ut gravis mea spina, si saccia per lo mondo. Ogni uomo senta, forse pietà n'avrà chi mi tormenta. Rien de plus intraduisible de fait que cette lingua trina, par quoi le poème se nomme lui-même. Langue unique, laquelle est traduction par essence. Passage incessant d'idiome en idiome au sein d'une seule et même œuvre strophique. Grâce à cette lingua trina, la poésie serait capable d'aller pour tout le monde. Jamais elle ne devrait connaître le triste sort d'Homère ou du psautier, transmués contre leur gré, au prix de leur douceur, musique et harmonie. Ainsi articulée par un lien musical indestructible, cette poésie conserverait-elle ses sons, ses mots et ses langages? Certes, cette chanson ne fut peut-être jamais qu'un artefact littéraire fort babélique, en quoi se mêlaient divers parlers distincts dans une disharmonie sans précédent. Mais peut-être est-elle aussi, dans son tressage d'idiomes et de langages, un écho fidèle de cette musique naturelle que Dante et ses contemporains cherchèrent à mettre en roman. Harmonie éternelle et universelle que l'on tenta de déchiffrer à l'époque médiévale au moyen des lettres variées des langues vulgaires.